universitaire à l'écoute des futurs avec Yasmine Edier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Graphite. Aujourd'hui, je suis avec Silver et Martin, deux étudiants en génie urbain à l'UTC, anciennement étudiants en humanité et technologie. Ils sont là pour nous parler d'un projet qu'ils ont créé. Merci Martin et Silver d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et nous parler un peu plus de votre projet ?
Donc, Silver Châtaignan, en génie urbain, troisième semestre. Du coup, ça fait maintenant 4 ans que je suis à l'UTC.
Du coup, moi, c'est Martin. Je porte ce projet avec Silver depuis maintenant quasiment 2 ans. Et effectivement, j'étais dans la formation du coup Humanité-Technologie avec lui, qui était assez structurante aussi sur la façon dont on a porté ce projet, même si aujourd'hui, effectivement, c'est aussi la formation Génie Urbain du coup, qui nous pousse dans ce type de projet-là.
Alors, je vais présenter le projet, donner les grands contours, et après, on aura l'occasion de rentrer dans les détails. Il s'agit de construire une maison en bois, en terre et en paille, un petit habitat de 40 mètres carrés à destination des étudiants, un habitat écologique, un habitat aussi qui se veut autonome, donc débranché du réseau d'électricité et des réseaux d'eau. Du coup, l'idée, c'est de produire l'énergie sur site et de récupérer l'eau sur site. Et donc, on souhaite construire ce projet avec les étudiants de l'UTC et un partenariat qu'on fait avec un tiers-lieu qui s'appelle l'Ermitage, situé dans l'Oise.
Quelle a été l'inspiration derrière ce projet, qui est ambitieux ?
Alors l'inspiration, les inspirations je dirais, parce que c'est assez multiple en réalité. À la base, nous ce qui nous a intéressé c'est le mouvement des habitats autonomes, qui est un mouvement qui remonte à il y a assez longtemps maintenant, je dirais, qui est à peu près concomitant au mouvement hippie dans les années 70, même s'il s'en est détaché, mais conserve un certain nombre de liens, on pourra en rediscuter. Par ailleurs, on a fait pas mal de recherches sur ce sujet-là. C'est ça qui nous a motivés en premier, et on a trouvé ça tellement intéressant qu'on s'est dit que ça serait intéressant de expérimenter ça par nous-mêmes. Et donc, on a avec Silver passé en revue un certain nombre d'habitats, et c'est celui de la paillourte qu'on va essayer de détailler un peu, qui a vraiment retenu notre intention parce que il catalysait un certain nombre de choses très positives qu'on voulait mettre en œuvre.
Voilà, donc les inspirations, il y a aussi tout le mouvement de l'autoconstruction en France, le mouvement de la construction aussi en biosourcée, en paille notamment, qui se développe beaucoup depuis 10 ans, et puis les chantiers participatifs qui sont un moyen de partager l'expérience, de rencontrer des gens. C'est quelque chose qu'on souhaite faire pouvoir expérimenter aux UTCiens et non-UTCiens dans les Hauts-de-France.
Et est-ce que c'est dans le cadre d'un de vos cours ici à l'UTC que vous travailler sur ce projet ?
Si seulement c'était qu'un seul. En réalité, c'est un projet de très long cours, voilà, on a commencé à s'intéresser à ces questions il y a maintenant plus de 2 ans. Donc en fait, il y a beaucoup de cours qui nous ont servi à développer notre projet, que ce soit sur des parties très concrètes, techniques, ou au contraire sur des plans plus axiologiques, de valeurs, de motivation. Donc oui, c'est des sujets qu'on a pu traiter dans des cours d'histoire, dans des cours de philo, dans des cours de thermique, dans des cours de matériaux. Donc oui, pour le coup, c'est ça qui, même de gestion de projet à l'heure actuelle où on se parle. Et c'est ça qui est aussi bien à l'UTC, c'est qu'on peut facilement porter des projets et on a pu le suivre au long cours, au cours de plein de matières différentes.
Généralement, quand on se lance dans un projet, c'est soit qu'on a identifié un besoin auquel il n'y a pas encore de réponse, soit c'est en réaction à une certaine façon de consommer ou autre. Vous, c'est plutôt pour essayer de redéfinir la construction, l'habitat.
Nous, on fait face au constat qu'il y a beaucoup de solutions aujourd'hui avancées dans le domaine de la construction qui sont en fait des fausses pistes, qui nous conduisent droit dans le mur, notamment sur les questions de transition écologique, sur les questions d'impact carbone, sur les questions d'artificialisation. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité vraiment renouer avec des matériaux locaux, des matériaux biosourcés, des matériaux peu transformés, changer d'échelle aussi, puisqu'on construit un petit habitat. On ne souhaite pas en faire des immeubles en paille, on souhaite vraiment faire des petites structures au juste nécessaire. Il y a aussi toute la dimension autonomie qui, là, reprend la surconsommation qu'on a en ce moment, notamment des énergies électriques, des énergies thermiques, et aussi les pressions qu'on a sur l'eau. Donc en fait, on s'inscrit dans un cadre où on va dire, il y a beaucoup de tensions qui pèsent sur les ressources, et on souhaite avoir une alternative complète et résiliente à la crise qu'on est en train de traverser, et on est sans doute encore au début de cette crise.
Martin, tout à l'heure, tu as parlé de paillourte, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? De quoi s'agit-il ?
Alors, la paillourte, c'est un des nombreux modèles d'habitats autoconstruits, low-tech, puisqu'il est question de ce mot-là aussi. Donc, en fait, d'un point de vue très concret, c'est une yourte en paille, d'où la contraction du mot paillourte. Donc, c'est une yourte en paille porteuse, c'est un habitat rond, où en gros, on superpose des bottes de paille de façon circulaire. Donc c'est un habitat qui est vraiment accessible, économique, facilement reproductible, il y a des formations qui existent. C'est de par le fait que ça utilise de la paille, c'est assez écolo, parce que c'est un matériau qui n'est pas transformé, qui peut en plus stocker du carbone, et qui a une esthétique assez particulière que nous on trouve intéressante et sympa à valoriser. Donc cet empilement de bottes de paille circulaire est surplombé d'une charpente réciproque, c'est-à-dire que la dernière poutre repose sur la première, ce qui permet de compenser les forces avec des rondins de bois qu'on aligne de façon circulaire. Et ensuite, le toit peut être végétalisé, ce qui en renforce le côté esthétique. Et on peut avoir aussi un puits de lumière qui permet d'éclairer, d'illuminer l'habitat. Voilà, dans les très grandes lignes, à quoi ça ressemble.
Donc, la paillourde, vraiment, on a retenu ce modèle, je dirais, pour quatre raisons principales. L'esthétique ronde qui est vraiment en rupture avec le modèle de l'urbanisme actuel. Donc voilà, inventer une nouvelle forme aussi. L'esthétique, le prix ensuite, puisque c'est un habitat, comme on l'a dit, qui est en bois terre-paille principalement, avec quelques graviers pour faire les fondations. Donc très très peu cher et qu'on trouve vraiment localement. Du coup, esthétique, économique, écologique. Voilà, bois terre-paille, encore une fois, c'est des matériaux biosourcés, locaux, peu transformés, peu de transport, qui stockent le carbone en plus. Et puis le dernier truc, c'est que c'est très facile à s'approprier pour la construction et pour l'autoconstruction. En fait, comme l'a dit Martin, il suffit de 2 jours de formation et puis on peut se lancer dans une construction de paillourte en gros. Voilà, on peut se faire accompagner ou pas par un professionnel. Nous, on a fait le choix de se faire accompagner par un charpentier. Mais en gros, très facile à faire. Pas cher, beau, écologique.
Donc ce n'est pas un projet que vous avez imaginé vous-même de A à Z, c'était un habitat qui existait déjà et vous avez décidé de le reprendre et de le construire ici à Compiègne ?
Alors oui, effectivement, l'habitat type paillourte, ça a été plus ou moins inventé en Bretagne. Aujourd'hui, il y a une quarantaine d'habitats comme ça en France. Donc effectivement, ce n'est pas une innovation au sens strict du terme, on n'a pas inventé quelque chose. Même si je vais quand même préciser 2 choses. Le premier, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est le faire rentrer. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui reste très niche, très milieu alternatif. Nous, notre objectif, en plus, en tant qu'élèves ingénieurs qui appartenons à une grande école, etc., c'est de le faire vraiment rentrer dans un cadre beaucoup plus global, beaucoup plus large, pour qu'énormément de gens puissent s'emparer de ça. Donc c'est vraiment un peu donner une preuve de concept au truc. Et la deuxième chose qu'on ajoute, nous, à la paillourte, c'est vraiment de mettre au cœur de ce projet-là la notion d'autonomie. Donc on en a déjà un peu parlé, mais voilà, on fait une paillourte, elle est obligatoirement off-grid, c'est-à-dire débranchée des réseaux d'énergie et d'eau. Et donc l'autonomie, nous, on voit ça comme un paradigme où on... Alors ça veut dire plein de choses, mais déjà on retrouve le pouvoir d'agir, c'est-à-dire autonomos, c'est le fait de pouvoir édicter ses propres normes, ses propres lois, donc la capacité à agir. Par ailleurs, c'est un paradigme où en gros on est plus sobre et on est plus en capacité, c'est-à-dire qu'on réactualise, on se réapproprie nos savoir-faire et notre pouvoir d'agir sur la technique. C'est pas la technique qui nous agit. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on dissocie, comme c'est le cas aujourd'hui dans notre civilisation industrielle, la production et la consommation, on produit un certain nombre de choses à un endroit et on peut, grâce à la multiplication des flux, le consommer ailleurs, et ça crée vraiment un gigantisme et une déconnexion. Alors que si l'énergie qu'on consomme, c'est celle de notre habitat, l'eau qu'on consomme, c'est celle qu'on a récupérée localement sur la parcelle où nous vivons, ça nous donne beaucoup plus conscience de ce que peut nous offrir la nature. Donc, typiquement, le soleil qu'on peut capter grâce aux panneaux solaires, c'est l'énergie qu'on reçoit comme ça. De même que l'eau qu'on consomme, c'est l'eau qui a ruisselé sur notre toit, qu'on a pu stocker nous-mêmes. Et donc, ça fait ça nous oblige réellement, d'un point de vue nécessité, à adopter des modes de vie beaucoup plus sobres. Et donc, c'est vraiment ça aussi que nous, on ajoute à la paillourte. C'est effectivement une construction et un mode de construire sobre, mais surtout un mode de vie induit par la suite qui est tout aussi écologique.
Pour nous permettre de nous projeter peut-être un peu plus et comprendre à quel point est-ce qu'on peut vivre de façon autonome dans la paillourte, quelle serait la journée type de quelqu'un qui vivrait dans ce genre d'habitat ?
Alors effectivement, la paillourte, c'est un mode de vie associé qui est une expérimentation. Donc le cadre aussi, c'est de pouvoir accueillir des personnes sur des durées moyennes, par exemple 6 mois, pour des césures ou des découvertes de l'Ermitage, qui est le lieu qui accueille le projet de paillourte. Alors déjà, au niveau de la consommation en eau, on a besoin de potabiliser l'eau de pluie. Du coup, on va potabiliser juste ce dont on a besoin avec un système de potabilisation par gravité qui s'appelle par charbon actif, qui est très très simple. Et du coup, par contre, pour tous les autres usages de l'eau, par exemple la douche, on va devoir avoir une consommation d'eau qui va être drastiquement réite. Ça veut dire inventer des nouveaux systèmes.
Pardon ? Tu veux que je rentre dans le concret peut-être des techniques employées et ce genre de choses ? En gros, effectivement, la vie dans cet habitat, c'est très différent, mais en même temps, c'est assez proche. C'est-à-dire qu'en termes de temps passé, de façon dont on vit, on ne fait pas des choses drastiquement différentes. Mais par contre, l'impact, lui, n'a rien à voir. Donc, par exemple, quelqu'un qui vit dans la paillourte, il va aller aux toilettes comme tout le monde. Ça, globalement, ça ne va pas changer, mais il va utiliser des toilettes sèches.
Et donc, sans chasse d'eau.
Sans chasse d'eau, absolument. Et donc, là où, pour donner un ordre d'idée, de valeur, nous, avec les modélisations qu'on fait, et des expérimentations qui ont pu être faites, on sait qu'on peut vivre à peu près 30 litres d'eau par personne par jour dans ce type d'habitat, voire même un peu moins. Aujourd'hui, la moyenne en France, c'est autour de 150 litres d'eau. Donc le différentiel, il est colossal, c'est un rapport de 1 à 5. Donc comment on fait en termes de mode de vie pour passer de l'un à l'autre ? Eh ben, c'est simple, il n'y a plus de chasse d'eau. Donc on arrête de pourrir l'eau potable avec des déjections humaines, ça n'a aucun sens. On utilise une douche à brumisateur. C'est-à-dire que pour se laver, on n'a pas besoin d'être mouillé en soi, il suffit d'être humidifié pour répartir le savon sur la peau. Donc on utilise un brumisateur qui va consommer à peu près 5 ou 6 fois moins, je crois. On peut penser aussi aux douches à recyclage. Donc c'est une douche avec un filtre, l'eau qui tombe, l'eau savonneuse qui tombe, qui n'est pas vraiment de l'eau pourrie, c'est de l'eau grise, quoi. Elle est filtrée, elle est renvoyée. Donc ça permet d'économiser deux fois rien qu'avec la douche, avec le brumisateur, avec la douche à recyclage. On stocke l'eau de la pluie et ensuite, toutes les eaux sales, entre guillemets, peuvent être envoyées à la phytoépuration. Donc c'est une manière d'assainir l'eau via des plantes qui est tout à fait durable et qui pose aucun souci. Et comme l'a dit Silver, effectivement, l'eau qui, pour le coup, est propre à la consommation, donc c'est-à-dire la cuisson des aliments et le fait de tout simplement pouvoir boire, là, ça va être filtré avec un petit filtre. Donc la personne en question a juste à verser son eau récoltée dans le potabilisateur et l'eau est tout de suite potable. Donc ça, c'est vraiment pratique. Donc ça, c'est pour la partie eau.
Et cette eau, on la stocke où ?
Alors, elle est stockée dans une cuve enterrée. Sous l'eau qui est reliée à la toiture, et donc en gros l'eau tombe sur le toit quand il pleut, elle s'écoule sur le toit et ensuite elle va via un système de tuyauterie dans la cuve et est stockée là-dedans. Donc c'est une grosse cuve, hein. Ça fait à peu près 4-5 mètres cubes, quelque chose comme ça.
C'est ça, tout à fait, 4-5 mètres cubes.
Donc voilà, ça c'est pour l'eau. Et pour ce qui est de l'énergie, alors là on multiplie justement les sources d'approvisionnement d'énergie pour être le plus résilient possible. Pour chauffer l'eau par exemple, on va utiliser des panneaux thermiques. Pour l'électricité, de façon générale, c'est-à-dire l'éclairage, on va utiliser des panneaux photovoltaïques. Pour la cuisson, on va utiliser un biométhaniseur. Donc en fait, on met juste des déchets dans un espèce de caisson qui est relié à des plaques au gaz dédiées pour. Et donc ça permet de ne pas utiliser d'électricité parce que les plaques à induction, c'est très très consommateur, c'est un vrai problème. Et ça requiert énormément de puissance électrique même, alors que là, juste avec les déchets organiques, on va pouvoir générer de l'énergie, donc ce qui est vraiment très pratique. Et ensuite, pour ce qui est du reste, c'est un savant mélange d'astuces et de low-tech. On peut penser par exemple au frigidaire, avec un apostrophe, qui est une espèce de placard extérieur qui permet de ne pas utiliser l'énergie du frigo en hiver, parce que s'il fait déjà moins de 5 degrés dehors, quel intérêt d'avoir... d'avoir un frigo allumé qui consomme de l'énergie en permanence. On peut penser à d'autres outils comme par exemple les marmites norvégiennes qui permettent de diviser quasiment par deux l'énergie de cuisson nécessaire. Bref, pour synthétiser tout ce que je viens de dire, que ce soit pour nous ou pour l'énergie, c'est une transformation de touche à touche de mode de vie qui permettent in fine une grande révolution au niveau écologique et par ailleurs en fait un peu d'intelligence, un peu de bricolage et un peu d'astuce.
On peut avoir plusieurs préjugés en disant que ça ne va pas forcément être confortable, ça ne va pas peut-être tenir aux intempéries, aux vagues de chaleur qui sont de plus en plus fréquentes. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ?
Alors par rapport à la question d'intempéries et vagues de chaleur, il faut savoir que la paille, ça a commencé à être utilisé dans la construction justement par rapport à ses capacités thermiques. La paille, ça a une résistance thermique de 7, ce qui est énorme, ce qui est à peu près deux fois plus que ce qu'on trouve dans des murs de maisons classiques, y compris aux nouvelles normes ERE-20 qui sont pourtant des normes très très strictes en matière de réglementation thermique. Du coup, c'est très très performant pour ça. Ensuite, pour ce qui est de l'aspect justement intempéries, on utilise un enduit terre. En général, on mélange de la terre à de l'argile ou de la terre à du sable pour venir recouvrir les bottes de paille. Du coup, c'est des matériaux qu'on va trouver sur place. Notamment, on va utiliser la terre du site. Et ainsi, on va protéger la paille à la fois des intempéries et tout ce qui est rongeur. Maintenant, la paille, il faut aussi éviter les remontées capillaires. C'est-à-dire qu'il y ait de l'eau qui soit pompée par les bottes de paille si jamais elles sont posées à même le sol. Alors pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un soubassement avec des briques de terre crue, de terre cuite en général. Et ça va éviter que la paille pompe directement l'eau du sol. Dernière chose aussi sur la paille, c'est qu'on a souvent le préjugé que la paille, ça tient pas, c'est pas costaud, ou que la paille, ça brûle facilement. Il faut savoir que par sa forme, c'est des bottes rectangulaires, et par sa densité, il n'y a pas du tout d'air à l'intérieur de la paille, du coup ça ne pourrit pas, ça brûle très très difficilement. Il y a des expériences au lance-flammes sur une botte de paille, on voit que les brins extérieurs qui ne sont pas condensés, eux vont brûler, mais l'intérieur de la paille après est complètement intact, la botte de paille est complètement intacte une fois qu'on les enlève. Et du coup voilà, pour toutes ces raisons, en fait la botte de paille est un excellent matériau aussi, qui a une très bonne tenue structurelle si on reste sur du plein pied. C'est pour ça qu'on a souhaité s'orienter vers une technique, nous, de paille porteuse.
Et aujourd'hui, l'objectif principal du projet, est-ce que c'est de montrer qu'on peut construire autrement, qu'on peut vivre autrement, pour montrer qu'on peut adopter un mode de vie qui est complètement en rupture avec celui qu'on a? Ou est-ce que c'est aussi d'essayer de construire de plus en plus de logements comme ça dans l'avenir? L'objectif, est-ce que c'est de créer une ville avec des paillourtes?
Alors, si l'idée, c'est de faire des grandes banlieues pavillonnaires de paillourtes, je pense que la réponse est non, on sera assez d'accord là-dessus. Effectivement, nous, l'objectif principal, c'est de montrer qu'on peut construire autrement, on peut vivre autrement, surtout, on doit construire autrement et on doit vivre autrement. C'est surtout ça, nous, qui nous interroge. Maintenant, effectivement, la paillourte, comme pas mal de bâtiments autoconstruits, ça ne s'insère pas forcément très bien dans le paysage urbain et dans la ville moderne telle qu'elle s'est construite, mais j'ai envie de dire un peu tant mieux, parce que je ne pense pas que ce soit l'objectif. Effectivement, là, on parle beaucoup à l'échec du bâtiment, mais il y a aussi beaucoup à dire au niveau de l'aménagement en général, et je pense que l'aménagement de la ville moderne telle qu'elle est conçue est aussi responsable d'un certain nombre de problèmes. Il n'y a pas que les bâtiments qui sont problématiques, il y a aussi la façon dont tout ça est agencé. Et donc, effectivement, nous, ce qu'on fait, c'est... On n'est pas là pour dire qu'il faudrait faire des immeubles de paillourtes ou des grandes banlieues pavillonnaires de paillourtes. Je pense pas que ce soit la question. Nous, l'idée, au contraire, serait plutôt d'inciter à réinvestir les territoires ruraux, à retrouver nos savoir-faire, une vraie capacité à être écologique, mais tout en vivant de façon confortable. Et alors, je ne vais pas faire un appel à déserter comme ça, mais en tout cas à ne pas mettre sur un piédestal le mode de vie citadin tel qu'il s'est construit, c'est pas notre sujet.
Voilà, tout à fait. Il y a l'idée aussi de montrer que c'est possible et même que c'est facile de construire sa maison en biosourcé, en matériaux locaux. Et du coup, avec ce projet, inviter tous les gens à le faire, étudiants et habitants de la région. Et puis d'autre part, il y a quelque chose de très important, c'est de créer un modèle qui sorte du cadre un peu flou, un peu bricolé de l'autoconstruction, pour vraiment le porter à une échelle qui fait que ce projet soit réduplicable par des autoconstructeurs, mais pas industrialisable. Et on pense que la paillourde, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça n'est pas industrialisable, mais que les autoconstructeurs peuvent vraiment s'approprier les techniques, les savoir-faire, les ressources qu'on mettra à disposition avec ce projet pour construire leur habitat eux-mêmes.
En parlant d'appropriation, Martin, t'en as parlé aussi en début d'émission, on sent quand même qu'il y aura une perte de confort par rapport à nos habitats actuels, mais peut-être un gain de sens aussi dans notre quotidien.
Bah, effectivement, ça dépend. Tout dépend de ce qu'on appelle le confort. Si le confort, c'est d'être chauffé par une centrale au fioul à 23 degrés, même en hiver, plutôt que de se chauffer par un poêle bouilleur en portant un pull dans les mêmes conditions, effectivement, de ce point de vue-là, on peut dire que si on définit comme ça, il y a une perte de confort. Maintenant, je ne pense pas vraiment que ce soit une définition qui soit très, très souhaitable. Au contraire, effectivement, je pense que d'une part, d'un point de vue purement physiologique, je ne pense pas qu'on perde de temps. C'est-à-dire, est-ce qu'on va aux toilettes dans l'eau potable ou dans de la paille ? Globalement, je vois pas une immense différence de confort. Est-ce qu'on stocke nos aliments dans un placard à l'extérieur ou dans un frigo qui consomme de l'énergie ? Encore une fois, je vois pas une immense différence de confort. C'est pas comme si on disait qu'on était obligé de prendre des douches froides à 5 degrés tout l'hiver. Globalement, en termes de mode de vie, c'est quand même assez proche. Donc, il n'y a pas une grande perte de ce côté-là. Par contre, il y a un gain immense, et ça, tu as tout à fait raison de le rappeler, c'est en termes de sens. On combat vraiment cette espèce d'illusion topique où, à partir du moment où on lève un levier de robinet, ou du moment où on clique sur un interrupteur, la lumière apparaît, l'eau coule de façon illimitée. Et donc, je pense que nous sortir de cette espèce d'illusion totale où les ressources, l'eau, l'électricité, l'énergie seraient complètement illimitées juste avec un petit geste, mais au contraire, prendre conscience du caractère essentiel et précieux de ces ressources-là, pour le coup, là, je pense qu'on y gagne énormément. Ouais.
Porter un tel projet, c'est aussi faire beaucoup de recherches, aller à la rencontre de personnes qui sont aussi engagées et motivées à réaliser de tels projets. Comment est-ce que l'idée que vous aviez eue au début a évolué ?
Alors, au début, on est parti sur le principe du bioclimatisme et de l'autonomie. Et on a conçu un premier habitat avec 8 personnes dans le cadre d'un projet à l'UTC. Et je dois dire qu'on n'était pas trop satisfait de ce qu'on a produit. C'est-à-dire qu'on avait finalement un habitat qui ressemblait à tous les autres. Certes, qui utilisait des matériaux un peu biosourcés, mais très transformés, type béton de chanvre, qui utilise du chanvre. On avait aussi tout ce qui est ouate de cellulose, qui est du journal broyé. On avait une serre bioclimatique. Et on a souhaité pousser la réflexion un peu au-delà juste de la conception. Et se dire, en fait, ces matériaux, d'où ils viennent ? Comment ils sont produits ? Qui va les mettre en œuvre ? Comment est-ce qu'on va les mettre en œuvre ? Et c'est comme ça qu'on a cherché un modèle plus simple, plus appropriable, plus écologique, avec une esthétique qui nous convienne aussi. Et c'est comme ça qu'on est arrivé sur le modèle paillourte. Je pense que quelque chose qui a été déterminant pour nous, ça a été aussi les chantiers participatifs qu'on a pu faire. Il faut savoir que le chantier participatif, on peut en trouver en ce moment environ 440 en France, sur des matériaux biosourcés principalement. Et ces chantiers participatifs, ils ont vraiment été très inspirants sur la philosophie associée à l'autoconstruction. C'est-à-dire qu'on s'arrête un moment dans sa vie, on se pose, et finalement on fait des économies parce que on va construire sa maison, ça va nous coûter beaucoup moins cher en artisan, en expert, en conseil. Et finalement, on va apprendre aussi beaucoup de choses en construisant sa maison et on va l'habiter autrement. Et ça, c'est important. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, on va construire quelque chose qui nous correspond, qui nous plaît. Du coup, on a travaillé le dernier semestre sur ce modèle paillourte. On a pu faire d'autres chantiers, d'autres rencontres aussi, d'autres constructeurs de paillourte. Et ça nous a plutôt conforté dans cette position qui est que ce modèle nous convient bien. Et aujourd'hui, on en est à un stade où, après avoir fait plusieurs embryons de projets, on souhaite réunir un collectif stable, durable, qui puisse porter la construction du projet d'ici un an. Un collectif aussi hétérogène avec des enseignants-chercheurs de l'UTC, des habitants de Compiègne, des étudiants, des gens qui travaillent dans le génie urbain, des gens qui travaillent dans la mécanique. Essayer de faire travailler ensemble tous ces gens pour construire un projet justement cohérent, écologique, esthétique et qui porte aussi une nouvelle philosophie, une nouvelle manière d'habiter.
Justement, combien de membres êtes-vous aujourd'hui et est-ce que vous avez des partenaires pour vous soutenir ?
Alors, à ce stade, on est en pleine construction du collectif qui va se charger de la construction de l'habitat. On est actuellement une quinzaine intéressés par le projet. On est en train de s'organiser, de se répartir les rôles, se répartir le travail. Là, comme disait Martin, on sort d'un travail plus scolaire de management de projet. Et on essaye de faire passer ça à un collectif. Donc on a différents partenaires. On a l'Ermitage, tout d'abord, qui nous donne le terrain et qui nous confie l'exploitation après du lieu.
Florian Carpentier, qui est le charpentier, donc qui va nous accompagner durant tout ce projet, qui s'est montré extrêmement intéressé par notre projet. Et par lui, c'est un artisan traditionnel, on va dire, mais même pour lui, il y a quelque chose de très innovant, donc ça lui plaît, ça l'intéresse. Compiègne en transition aussi, qui est donc l'association engagée en termes d'écologie à l'UTC, qui, avec qui on dialogue énormément et dont nos membres sont issus pour la plupart aussi. On a la Junior, donc, qui nous soutient déjà financièrement, ça a été notre premier soutien, donc on les remercie pour ça, et qui nous accompagne aussi de façon plus globale sur certaines tâches, comme par exemple le marketing ou la trésorerie. Je ne sais pas si tu veux enchaîner.
Oui, après, on a des personnes comme Fabien Lamarque, du département génie urbain, qui, lui, accepte de nous encadrer sur tout ce qui est modélisation mécanique de l'habitat. On a aussi des architectes du cabinet d'architectes Vivarchi, qui nous ont donné un avis sur le projet, sur les techniques qu'on souhaitait mettre en œuvre. On a aussi rencontré quelqu'un qui fait de l'autoconstruction, pas très loin de l'Ermitage, qui a accepté de nous former, notamment sur tout ce qui est objet low-tech, et mise en œuvre de la paille et des enduits terre. Et puis on a des contacts aussi avec le collectif Paille de l'Oise qui est en train de se monter, qui travaille, donc il y a des architectes, des vendeurs de paille, qui travaillent lui à promouvoir la paille dans le département.
L'Ermitage qui est un écolieu pas très loin de Compiègne pour ceux et celles qui ne connaissent pas. D'ailleurs, j'ai compris que le projet était ouvert à tous et à toutes, pas qu'aux étudiants de l'UTC. Donc s'il y a des auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui sont intéressés, n'hésitez pas à contacter Martin et Silver. Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs ?
Une anecdote, peut-être, je dirais, la rencontre avec le concepteur de la paillourte. Puisque c'est une personne qui... Bon, je n'ai pas trop raconté sa vie, mais c'est une personne quand même qui vit au fin fond de la Bretagne, dans sa paillourte, du coup, qu'il a construit tout seul, sans demander de permis de construire, sur un terrain qu'il avait acheté, mais sans demander de permis de construire, au milieu d'une forêt. Et après, il y a plein de personnes qui sont venues s'agglutiner, comme ça, qui ont construit aussi leur paillourte autour. Et finalement, on se retrouve avec un petit hameau de paillourte, très sympa. Il faut savoir que la rencontre a été assez originale, puisque... On est tout simplement allé là-bas et toqué chez lui, au milieu de la forêt. Et il nous a ouvert. Il a été ravi de rencontrer des étudiants ingénieurs qui étaient intéressés pour discuter, qui étaient intéressés par la paillourte. Puisque lui, il faut savoir que c'est un ancien ingénieur en informatique, donc qui a fait ses études en Bretagne, mais qui a, on pourrait dire, déserté après. Puisqu'aujourd'hui, il ne fait que de la formation à la paillourte. Et il vit tout seul dans son petit trou perdu au fin fond de la Bretagne, dans son petit hameau de paillourte.
Et aujourd'hui, quel impact espérez-vous que votre projet aura, que ce soit au sein de la communauté étudiante et au-delà ?
Justement, je trouve que cette anecdote sur le créateur de la paillourte est assez intéressante parce qu'elle témoigne un peu des origines de ce type d'habitat. Et même si nous, voilà, on trouve ça très sympathique, bucolique, un peu romantique, en quelque sorte, voilà, on vit seul... dans son habitat, en autonomie totale, etc. Mais je pense que si on veut vraiment engager des transformations radicales de notre société à grande échelle, il faut, même si c'est, voilà, ça peut être un peu mal vécu par certains, il faut un peu se départir de cette image-là. Et donc je pense qu'en tant qu'élève ingénieur, en collaboration avec un écolieu important dans la région, pouvoir donner une vraie preuve de concept à cet habitat, c'est essentiel parce que ça permettra vraiment de démontrer que c'est faisable, non seulement faisable, mais aussi souhaitable, et donc ça puisse être généralisé à beaucoup plus grande échelle, en dehors du simple cadre, dans des petits coins perdus, dans des petits hameaux dans la forêt, vraiment que ces méthodes, tant de construction que de mode de vie, soient vraiment généralisées de façon le plus globale et au plus vite.
par rapport à la paillourte aussi et à la question de l'autonomie, il faut rappeler que la technique, en tout cas telle qu'elle se fait aujourd'hui, elle est aussi en prise avec beaucoup d'enjeux de pouvoir. C'est-à-dire que les systèmes centralisés qui nous rendent dépendants à tous les niveaux. Et c'est pour ça que l'autonomie, faire ses propres lois, si c'est se libérer de ces réseaux, c'est se libérer aussi de cette source de pouvoir dont on ne veut pas. Et c'est montrer aux gens qu'en fait, il y a un pouvoir qui est exercé. On pourrait prendre l'exemple, quand on est branché au réseau électrique, quand on est branché au réseau d'eau, on est dépendant de plein de choses. On est dépendant de toute la politique nationale, finalement, sur l'énergie. On est dépendant des cours internationaux, même européens, je veux dire, sur la question de l'énergie. Et donc, c'est montrer qu'on peut reprendre le pouvoir sur ces questions-là. Et peut-être, une fois qu'on aura repris ce pouvoir technique, aussi, il y a une dimension organiser autrement la société à une échelle différente, avec une méthode démocratique aussi différente. Donc, en fait, nous, ce qu'on pense, c'est qu'en partant de la question technique, en partant d'une réencapacitation des personnes, on arrivera à changer de modèle de société. C'est un peu l'ambition large qu'on porte avec ce projet. Pour l'instant, on est sur un objet isolé, précis, démonstrateur. Mais voilà, la philosophie qu'il y a derrière, c'est ça aussi.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes et d'étudiants qui sont convaincus par tous ces enjeux-là que vous évoquez, mais qui n'arrivent pas à passer le cap ou à s'imaginer vivre peut-être un peu plus isolés, vu qu'ils n'auront pas accès tout le temps à l'électricité, à la 4G, voire à la 5G. Est-ce qu'il y a un travail de sensibilisation aussi que vous faites pour que les gens arrivent à se projeter aussi dans ce mode de vie qui est quand même en énorme rupture ?
Alors nous, on ne fait pas immédiatement de sensibilisation. C'est vrai que voilà, c'est pas, nous, on n'est pas des communicants, on est un peu ingénieurs, un peu philosophes, on n'est pas spécialement... on n'est pas des marketeux, on va dire, même si ça pourrait le devenir... Même si, néanmoins, quand même, nous, justement, avec ce projet, on veut quand même faire un démonstrateur et donc montrer qu'on n'est pas perdu seul dans la forêt si on habite dans un lieu comme ça. On n'est pas complètement retourné à la préhistoire si on adopte ce mode de vie-là, qu'on peut très bien avoir. D'ailleurs, c'est prévu dans nos dimensionnements. Avoir suffisamment d'énergie pour brancher son téléphone, pour avoir un ordinateur. On peut quand même être relié à Internet, c'est tout de même possible avec ce genre d'habitat-là. Donc, nous aussi, notre ambition, c'est de montrer qu'effectivement, c'est un changement de vie radical. On tourne complètement le dos à une civilisation un peu démiurgique, comme a pu être l'industrie à notre époque. Mais en même temps, on reste quand même totalement dans cette forme d'air du temps. En tout cas, on n'a pas besoin de renier vraiment sur nos aspirations. Au contraire même, je dirais qu'aujourd'hui, quand on fait des choix, entre guillemets, c'est des choix qui sont contraints. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'aimerais bien ne pas avoir de 5G. Or, mon téléphone, il est assez récent, il capte la 5G. Donc, pour ne pas avoir la 5G, je suis obligé d'expliciter spécifiquement dans mes paramètres pour ne pas l'avoir. Enfin bref, il y a des choses qui n'ont pas vraiment de sens comme ça. Or là, l'idée, c'est juste qu'on redonne le pouvoir et le choix sur les techniques dans ce type d'habitat-là.
J'aimerais aussi dire deux choses. Qu'il n'y ait pas de confusion pour les auditeurs, c'est que ce mode de vie-là, ce n'est pas du tout un mode de vie isolé et rétrograde. Autonome, ça ne veut pas dire isolé, ça ne veut pas dire seul, même si ça peut être le cas dans certains cas, ce n'est pas du tout l'ambition du projet.
Autonomie n'est pas autarcie, voilà, si on peut le dire comme ça.
Nous, ce qu'on souhaite justement, c'est retrouver de la proximité, retrouver du contact et recréer des collectifs, recréer des réseaux d'acteurs locaux. Et donc, en fait, l'autonomie qu'on porte est hyper sociale, finalement.
Et quelles sont les prochaines étapes pour votre projet ?
Alors, les prochaines étapes, nous, on raisonne par semestre, par tranche de 6 mois, comme on est des UTC1. En printemps-été, du coup, de cette année, de l'année qui arrive, on va déposer un permis de construire, on va continuer notre recherche de financement, et on va commencer à organiser le chantier. Tout ce dont on parle, toutes les infos sur l'évolution du projet sont disponibles sur notre compte Instagram qui s'appelle il.utc, donc HEAL.utc.
Pour Habitat écologique, autonome et low-tech.
Voilà, qui résume un peu tout le parti pris technique du projet. Du coup, voilà, pour ce qui est du semestre printemps-été, ça va être permis de construire, financement, organisation du chantier. Le semestre suivant, du coup, qui sera de l'automne et de l'hiver 2024, on va commander le matériel, finaliser les devis et réceptionner les principaux éléments du chantier. Il faut savoir que c'est un chantier qui est très très peu mécanisé. En gros, on a besoin d'une mini-pelle pour les fondations, une bétonnière et une visseuse, pour faire simple. Et deux, trois bouts de scie pour couper le bois. Ensuite, l'idée, c'est qu'en printemps, été 2025, on commence le chantier avec des services civiques, avec des chantiers participatifs ouverts à tous. Donc là, ça s'adresse à toute personne de la région et au-delà qui voudrait participer. Du coup, la construction se ferait sur 6-7 mois, en printemps, été 2025, pour qu'à l'arrivée de l'automne 2025, on puisse réceptionner le bâtiment et commencer l'expérimentation de nouveaux modes de vie.
Avant la fin de l'émission, est-ce que vous avez des conseils à donner, par exemple, à des étudiants qui veulent se lancer dans un projet similaire, ou même un dernier petit mot ?
J'ai envie de dire, l'UTC permet énormément l'initiative sur des projets personnels. Il y a différents formats qui existent. On connaît tout ce qui est projet qu'on peut on peut auto-construire son projet avec tout ce qui est PR, TZ et TX, qui sont des formats pour discuter avec les enseignants de la construction d'un projet, obtenir des crédits d'ingénieur pour ce travail. Et du coup, en fait, c'est très, très facile. Il suffit de trouver un enseignant qui est d'accord avec nous. Nous, c'est ce qu'on fait pour la modélisation de la paillourte, la modélisation mécanique. Et donc, en fait, j'ai envie de dire à tous les étudiants, allez-y, quoi.
De façon plus générale aussi, donc ça, c'est pour l'aspect positif, ne pas se décourager avant même que ça se produise. Nous, voilà, on travaille là-dessus depuis 2 ans maintenant, et c'est seulement maintenant, entre guillemets, qu'on a un terrain, qu'on va pouvoir déposer un permis de construire, et qu'on sait que, voilà, là, on a commencé à avoir des financements, et que le projet va pouvoir se faire, et donc là, on va suivre son évolution. Mais ça a mis du temps. Donc, voilà, pour s'engager dans ce genre de combat, je dirais, parce que c'est un projet, mais aussi, c'est aussi un combat technopolitique, on a pas mal rabâché aujourd'hui. C'est pas toujours évident, il y a beaucoup de freins économiques, réglementaires aussi beaucoup sur ce type de projet-là, mais ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, moi j'incite tous ceux que ça intéresse à nous rejoindre ou à porter vos propres projets, parce que ça vaut vraiment le coup.
Donc, croyez en vos projets, n'abandonnez pas, continuez, la preuve, il faut plusieurs années pour voir l'aboutissement d'un projet. Merci Martin et Silver d'avoir été avec nous aujourd'hui pour votre partage d'expériences très inspirant. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés, et à très bientôt pour une prochaine émission sur la vie étudiante à l'UTC.
Merci beaucoup.
Merci.